Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite tous les samedis à 12h. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les mardis à 10h également parce qu'il y a la rediffusion. Vous pouvez nous écouter aussi sur la bande FM mais également sur internet où que vous soyez et quand vous le voulez parce qu'il y a également tous les podcasts des émissions de Graphite. Bienvenue, je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver après cette pause liée à la fête de la science la semaine dernière. Je retrouve Carole sur l'antenne. Bonjour Carole.
Bonjour à tous, bonjour Jean-Noël.
Quand tu auras fini de faire tes selfies dans
mais
le studio.
Mais ça va très très bien justement, je suis très en forme aujourd'hui.
Oui, ça se voit, tu es resplendissant. C'est... Comme toujours en fait, je ne sais pas pourquoi je dis ça aujourd'hui. Tu es resplendissant tous les samedis que tu...
Quand
tu
où je suis là, quand je suis, bien sûr, ça, évidemment.
Juste au moment où tu dis ça.
Un rayon de soleil, voilà exactement.
Un rayon de soleil en ce samedi 22 octobre. Déjà, non mais ça passe à une vitesse. Cette émission de rentrée, j'ai cru que c'était hier.
C'est vrai.
Presque, finalement, quelque part.
Ça ne nous rajeunit pas, le temps passe tellement vite.
Au niveau de l'éphéméride de ce 22 octobre, en 1797, c'est le premier saut en parachute de l'histoire réalisé par le Français André-Jacques Garnerin en 1797. Fallait quand même avoir les coronets, hein, quand même, pour pouvoir sauter en parachute.
Quand personne ne l'avait fait, oui. J'aurais pas aimé être à sa place, déjà que, j'allais dire, même là, maintenant que c'est maîtrisé, non plus. Donc oui.
Non, mais franchement, je trouve en 1797. 1879, Thomas Edison invente l'ampoule électrique. En 1879.
Tout ça pour qu'un jour on paye des factures d'électricité.
Tout ça pour nous dire maintenant si éteignez les lumières. Ouais.
Il aurait mieux fait du coup. Il y a certaines inventions comme ça, on se dit, ils auraient peut-être mieux fait de s'abstenir. Mais non, évidemment, on n'aurait pas eu la lumière, l'électricité, nous l'avions, mais toutes ces ampoules qui nous permettent, d'illuminer nos soirées.
Alors, je me souviens, on avait fait une émission il y a très longtemps, je ne sais plus à quelle occasion, et en parlant d'ampoules électriques, il y avait une caserne de pompiers, je crois que c'est à New York, en tout cas c'est aux États-Unis, c'est certain, qui, avec une ampoule électrique qui était allumée depuis des dizaines et des dizaines d'années, je crois même une centaine d'années.
Et qui n'était jamais éteinte.
C'était jamais éteinte. Alors, je ne sais pas maintenant, il faut que je retrouve cette information,
ouais, oui.
C'était toujours le cas, parce que c'était à l'époque où on avait parlé de ces remplacements des ampoules à filament avec les ampoules fluorescente, non, je ne sais plus quel était le terme exact, c'était pas les ampoules basse consommation, enfin en tout cas on les appelait après ampoules basse consommation, mais tu sais ces ampoules avec des espèces de mini néons en tortillon,
oui, oui.
Qui n'allumaient pas tout de suite en fait, qui s'allumaient progressivement, c'était très bien quand tu devais aller aux toilettes en pleine nuit parce que tu voyais rien en fait, mais et on parlait de ça à l'époque, donc je te parle de ça une bonne dizaine d'années, et on avait justement évoqué Thomas Edison parce qu'on parlait des grandes découvertes et notamment de l'ampoule électrique. C'était en 1879. Le 22 octobre 1998, c'est l'apparition de l'ouragan Mitch. Et effectivement, Mitch, ça nous dit quelque chose. C'était il y a 24 ans. Ça a causé quand même la mort. En fait, on n'a même pas des chiffres exacts parce qu'on nous dit entre 10 000 et 18 000 morts en Amérique centrale quand même. L'ouragan Mitch en 98, c'est vrai que c'était une catastrophe il y a 24 ans. Naissance, le 22 octobre 1881 de Clinton Joseph Davison, physicien américain. Il est lauréat du prix Nobel de physique en 1937 pour la découverte de la diffraction des électrons par les cristaux. Et donc pour cela, il a reçu un prix Nobel. Donc la diffraction des électrons par les cristaux, c'est donc l'émission d'aujourd'hui. C'est la thématique, Carole, vas-y, nous t'écoutons. Donc tu vas nous expliquer la diffraction des électrons.
Alors, je n'ai pas révisé.
Et toi, c'est un genre de
Je me le note pour la prochaine fois, pour la semaine prochaine. C'est ce que je peux faire dans le meilleur des cas.
C'est un genre de sujet où il est franchement très difficile de l'aborder par le média radio. En fait, là,
oui.
Franchement,
il nous faudrait des schémas, il nous faudrait des images animées, etc.
Ça,
oui.
Diffraction des électrons par les cristaux. Bon, il a reçu un prix Nobel de physique en 1937. Je pense que c'était sûrement très important. Mais alors, je suis incapable de vous dire, de vous expliquer le. La raison. C'était juste pour dire qu'il était né le 22 octobre, hein. C'était juste un prétexte. Décès le 22 octobre 1938 de Sir Robert Ludwig Mond, chimiste britannique. Robert Mond, il a aussi œuvré comme archéologue pendant 30 ans en Égypte, en Palestine, en Bretagne aussi. Il séjourne en Égypte en 1927 à Louxor et il dirige des travaux de recherche sur la nécropole de Gourna. Robert Mond est décédé donc un 22 octobre 1938. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on est au XXe siècle en ce qui le concerne et on associe encore le côté chimiste avec le côté archéologue. C'est encore
oui, à l'époque,
encore
on avait beaucoup
siècle,
comme ça de
c'est l'un des
champs de connaissances.
Oui, c'est ça qui était vraiment intéressant. Voilà pour cette éphéméride du 22 octobre. Carole, à toi la main, de quoi vas-tu nous parler ?
Eh bien, je ne sais pas par quoi commencer, tellement j'ai de propositions à te faire.
Si tu veux.
Mais il y a nos auditeurs, bien sûr. Non, mais en termes d'actualité scientifique, on a beaucoup de choses. Elle est riche.
Si tu as beaucoup de choses, je te laisse l'antenne pendant une heure sans problème.
Tu t'en vas, oui, non. Non, c'est toujours plus sympa quand on peut quand même échanger. Et je propose du coup de parler de la Terre et de s'interroger sur cette question qui en fait au départ a été posée par un lecteur donc au site Science et Avenir. Pourquoi la Terre tourne-t-elle de plus en plus vite ? Alors moi déjà je n'étais pas au courant, donc voilà, c'était intéressant de prendre la question.
Si, quand tu m'as évoqué ça tout à l'heure, je me pense...
Toi tu le savais.
Enfin je savais, je pense qu'on en a parlé dans cette émission il me semble, on a tellement parlé de choses dans cette émission.
Oui, c'est fort possible.
On a dû en parler à un moment. Mais effectivement, ce n'est pas nécessairement un sujet que... Enfin, ce n'est pas une information que l'on maîtrise totalement, enfin, j'en ai quasiment pas entendu parler ailleurs, si ce n'est dans un article que j'ai pu lire. Pourquoi elle tourne de plus en plus vite ?
Mais on va essayer d'y répondre justement à cette question.
La diffraction peut-être des électrons.
Alors, apparemment non. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'au tout début de l'été 2022, le 29 juin plus précisément, la Terre a établi un nouveau record de vitesse de rotation. 24 heures moins 1,59 millisecondes. C'est en fait le dernier record d'une série de records de vitesse depuis 2020. C'est ce qu'expliquait le site anglais spécialisé sur le sujet Time and Date. Et en effet, comme nous le relations, enfin comme ça a été, voilà, soit partagé dans l'émission, mais en tout cas ça a été relaté aussi visiblement dans d'autres articles que je n'ai pas suivis. L'année 2020 a été une année spéciale, y compris donc pour la Terre, qui a enregistré les 28 jours les plus courts depuis 1960. Alors apparemment, il ne faudrait pas s'affoler, parce que ce serait comme ça, on se dit, mais alors on parle de millisecondes, mais quand même, est-ce que ça va s'accélérer comme ça, et puis pourquoi ? Alors ces petites variations, apparemment, elles sont normales. La rotation de la Terre ne se fait habituellement pas exactement en 86 400 secondes. En effet, plusieurs perturbations agissent sur notre planète, donc déjà les mouvements des océans, de l'atmosphère, l'attraction de la Lune, dont la distance varie, on le sait, ou encore l'impact du noyau interne rajoute ou enlève quelques millisecondes à la durée de la rotation. Donc voilà pour les explications. En fait, ce serait l'ensemble de ces perturbations finalement qui agiraient sur la vitesse de rotation de la Terre. Pourtant, donc, ces perturbations elles ne sont pas comptées par nos 200 horloges atomiques qui donnent le temps universel coordonné, l'UTC. Alors là, on ne parle pas de l'Université technologique de Compiègne, non. Mais le fameux UTC qu'on voit quand on choisit les fuseaux horaires, etc., que l'on utilise donc partout, et qui sont donc ces horloges atomiques extrêmement stables. Donc un décalage en fait, entre l'UTC et le temps donné par la rotation de la Terre peut arriver si les perturbations sont vraiment trop importantes. Donc le temps universel coordonné, le fameux UTC, c'est le temps que nous utilisons comme référence. Il est mesuré par donc, ces fameuses horloges et on est certain en fait, qu'il est stable. On a aussi le temps universel qui s'appelle TU, l'abréviation est TU, et qui est une mesure de temps basée sur la rotation de la Terre. Elle est mesurée par le mouvement des étoiles et peut varier à cause de toutes les perturbations qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc lorsque la différence entre le temps mesuré par les horloges atomiques et celui de la rotation de la Terre diffère de plus de 0,9 secondes, on rajoute ou on enlève ce qu'on nomme une seconde intercalaire. Ça, on en a déjà parler de cette fameuse seconde intercalaire. Et on la rajoute, en fait, pas n'importe quand, au 30 juin ou au 31 décembre à minuit.
Mais ça s'est passé il n'y a pas si longtemps de ça. Oui, effectivement.
La dernière fois que c'est arrivé, c'était le 31 décembre 2016. Jour, en fait, pour lequel on a pu bénéficier d'un 1h59 minutes et 60 secondes, ça me dit quelque chose aussi, affiché sur justement tous les cadrans. Et puis en plus, comme c'était le passage à la nouvelle année, ça a dû être encore plus décompté. Donc il y a eu ces 60 secondes à la fin de l'année. Et la fameuse donc, seconde intercalaire a été donc ajoutée. Alors depuis 1972, c'est la date en fait, du début de cette mesure, 27 secondes. Et pas moins, ont ainsi été ajoutés, car la rotation de la Terre s'est ralentie. Et donc il y a des moments où apparemment ça a ralenti, mais c'est très. Alors il y a des jolis graphiques et j'invite nos auditeurs à aller voir où justement ils mesurent ça.
C'est cyclique alors.
Ben en tout cas il y a pas. Alors là il n'y a pas de cycle qui clairement défini, pas
ça
du tout, parce qu'en fait ils nous disent que justement depuis 1972 il y a 27 secondes qui ont été rajoutées, donc ça veut dire qu'on voit bien que ça n'a pas accéléré tout le temps. Moi c'est comme ça que je le comprends. Pourtant en 2020, 2021 et 2022, donc là les trois dernières années, la vitesse a accéléré. Pas de seconde rajoutée alors, mais il est possible qu'une seconde soit enlevée si cela devient nécessaire. Oui, voilà. C'est-à-dire que, justement, je ne suis pas allée jusqu'au bout de la lecture. Non, justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'avant, on devait en rajouter parce que, du coup, pour arriver à ce fameux temps et qu'il soit complet, il nous manquait des secondes. Donc, la Terre, entre guillemets, tournait de manière un tout petit peu plus lente. Et là, on va peut-être être obligé d'en enlever si, du coup, elle va trop vite. Et j'aime beaucoup, seul le temps nous le dira, ça c'est sûr. Voilà. Voilà pourquoi la Terre tourne plus vite. Enfin, en tout cas, ça nous... Comment dire ? La Terre tourne plus vite qu'avant. Néanmoins, ça reste dans des proportions tout à fait acceptables et des variations qui sont quand même mineures. On ne va pas d'un coup diviser par deux le temps de rotation de la Terre.
Oui, et pour l'instant, on ne constate pas d'impact, en fait, sur les organismes, sur la météo, je ne sais pas.
Non. Bah pas, en tout cas, c'est pas l'été dans cet article.
Je pose une question bête, en fait. Est-ce que ça tourne plus vite ? Est-ce que, du coup, les vents sont plus forts ? Ou est-ce parce que les vents sont plus forts que ça tourne plus vite ? Ou est-ce qu'il n'y a aucune incidence entre l'un et l'autre ? J'en sais rien.
C'est une bonne question. Est-ce que ce serait le réchauffement climatique qui... On n'a pas encore eu le lien.
Je ne sais pas.
Eh bien, bonne question. Je la poserai, du coup, à Science et Avenir pour compléter dans la lancée de cette première question.
Pose cette question à Science et Avenir. On va revenir sur Terre. On ne l'avait pas trop quitté, mais on avait pu
On y est toujours, on y reste.
Un peu de recul et on y reste. D'après une étude, 90% des milliers de tonnes de déchets plastiques qui forment ce qu'on appelle communément le continent du plastique du Pacifique, eh bien 90% de ces milliers de tonnes proviendraient en grande partie de produits de pêche originaires de 5 pays industrialisés. Tout ça, on l'appelle bien sûr le 7e continent, on l'appelle le continent poubelle. Il y a plusieurs appellations qui ne sont pas véritablement glorieuses qui existent pour désigner cet immense amas de plastique qui s'étend sur une surface de 3 500 000 km². On ne se rend même pas compte de ce que ça veut
dire. Ça fait froid dans le dos, en fait.
C'est au beau milieu de l'océan Pacifique Nord. Parmi les déchets qui composent cette île de plastique, il y a une grande partie qui proviendrait de matériaux flottants issus des activités de la pêche. C'est ce qu'a démontré une récente étude publiée début septembre dans Scientific Reports. Des chercheurs du projet Ocean Cleanup et de l'université de Wageningen, je pense que ça se dit comme ça, en tout cas c'est dans les Pays-Bas, eh bien ces chercheurs ont récupéré plus de 6000 déchets qui mesurent moins de 5 cm, puis ils les ont analysés un par un. Et les objets en plastique les plus courants étaient des fragments de plastique non reconnaissables. Les engins de pêche et d'aquaculture constituaient toutefois la deuxième catégorie la plus importante de déchets. Alors, les chercheurs sont parvenus à identifier un total de 232 objets en plastique. Et ce qui est intéressant, ils ont pu identifier le pays d'origine en se basant sur des éléments comme la langue, le texte, le nom de l'entreprise, le logo de la marque, par exemple, qui apparaissait dessus. Et on a donc les chiffres. On sait de quel pays proviennent les déchets de plastique qui polluent l'océan Pacifique. Il y a une part importante de ces déchets qui proviendrait du Japon, 34%. Alors, on n'a peut-être pas pensé tout de suite au Japon. De la Chine, 32%. La Corée, 10%. Les États-Unis, 7%. Et Taïwan, lui tout seul, Taïwan, l'île de Taïwan, 6%
pourtant,
quand même.
Ouais.
L'étude souligne ainsi le rôle important que joue l'industrie de la pêche dans la résolution du fléau mondial que représente la pollution plastique des océans. Je cite les chercheurs. « Alors que les évaluations récentes des apports de plastique dans l'océan désignent les économies côtières en développement et les rivières comme les principaux responsables, nous montrons ici que la plupart des plastiques flottants dans cette zone du Pacifique Nord proviennent de 5 pays industrialisés pratiquant la pêche. » Donc, c'est la première fois à ma connaissance qu'on a une identification de ces fameux déchets plastiques au niveau du Pacifique. Et c'est vraiment intéressant parce que là, on pointe du doigt carrément et avec des chiffres à l'appui, on pointe du doigt concrètement les pays qui sont incriminés dans cette pollution vraiment très, très importante. Non, on va écouter encore Carole.
Pourquoi? Continuons et revenons. Mais
non, parce que comme tu nous as dit que... En plus, tu nous donnes du suspense. Là, tu nous as dit qu'il y avait plein d'articles vraiment intéressants. Donc...
Bah, ils sont tous un peu... je veux dire, ils sont tous conséquents. Il y a beaucoup d'informations. On revient en fait aux origines de l'humanité. Et on parle justement de la datation de certains fossiles d'une grotte très connue hein, pour ceux qui suivent ce sujet-là, puisqu'elle se situe donc en Afrique du Sud. Et on y a retrouvé justement de nombreux fossiles de nos ancêtres lointains. Et en fait, elle pourrait changer notre perspective sur l'évolution des Australopithèques. C'est pour la science qui en parlait en fait à la fin de l'été. J'ai trouvé vraiment que c'était un sujet intéressant. Donc c'est le chercheur Laurent Bruxelles du CNRS et de l'INRAP qui mène l'émission Human Origins donc in Namibia et Human Origins in Botswana ailleurs qu'en Afrique australe ou orientale. Et en fait, donc, ce géomorphologue, il apporte la preuve que tout le continent mérite d'être étudié. Il vient ainsi de contribuer à réduire un désordre chronologique majeur en Afrique australe, c'est-à-dire qu'on se posait la question de savoir, question qui laissait, j'imagine, tous les chercheurs dans ce domaine perplexes, pourquoi Australopithecus africanus, découvert dans un coin de la grotte de Sterkfontein, est-il daté de quelque 2,3 millions d'années, tandis que Littlefoot, qui était un autre Australopithèque trouvé dans un autre coin de la même grotte, était quant à lui daté de 1,4 million d'années de plus. 1,4 million d'années de différence, ça fait beaucoup.
C'est pas anodin, oui, effectivement.
Exactement, et donc on les retrouve à peu près au même endroit. Donc avec Daryl Granger de l'université Purdue dans l'Indiana et d'autres chercheurs, il vient remettre d'aplomb la chronologie de Sterkfontein. Désormais, en fait, tous les Australopithèques de cette grotte du berceau de l'humanité sud-africain datent d'entre 3,4 et 3,7 millions d'années et c'est d'une extrême importance paléontologique. Alors quand on n'est pas du domaine, c'est vrai que bon, ça nous laisse peut-être un peu perplexes, on va essayer de détailler ça. Donc les restes en fait d'Australopithecus africanus, ils proviennent de la zone à ciel ouvert de Sterkfontein, créée par l'exploitation du calcaire à l'origine dans les années 1890, de la découverte des premiers fossiles. Donc ils sont contenus dans une brèche, c'est-à-dire dans un conglomérat de débris rocheux soudés par une colle minérale, la calcite. La forme de cette brèche et le fait qu'elle soit constituée de débris provenant de la surface suggèrent qu'elle est ce qui reste d'un cône de cailloutis formé sous une ancienne entrée. Donc ce sont les datations hein, des deux planchers stalagmitiques, l'un en haut de ce cône et l'autre à sa base, qui avaient conduit à placer l'âge des fossiles que l'on y a trouvés entre 2,65 millions d'années, plancher inférieur, et 2,03 millions d'années, plancher supérieur. Donc une période correspondant à l'émergence d'Homo. C'est le plus ancien, on le rappelle, hein, le plus ancien fossile humain, il date de 2,8 millions d'années. Mais après avoir réanalysé la stratigraphie, Laurent Bruxelles et ses collègues ont compris qu'au cours des millions d'années, le ruissellement a créé des vides dans la brèche, puis les a colmatés en déposant de la calcite. Quelle était donc la conséquence ? Eh bien, les planchers stalagmitiques qui résultent d'une partie de ce processus se sont formés bien après la constitution du cône de cailloutis. Donc en fait, tout ne s'est pas finalement agencé comme ce qu'on peut observer quand on découvre cette zone. C'est pourquoi les chercheurs ont recouru à la datation par les nucléides cosmogéniques. Alors on sent qu'on a un petit peu évolué. Alors là, il faudrait qu'on m'explique ce que ça veut dire.
Carbone 14, alors.
Voilà, pour dater non plus la calcite, mais des blocs de quartz déposés au fond du gouffre en même temps que les ossements d'Australopithecus africanus. Les nucléides cosmogéniques, par exemple, alors c'est bien qu'ils détaillent un petit peu ce que c'est, hein, l'aluminium-26 et le béryllium-10 sont des noyaux atomiques instables créés par les rayons cosmiques dans les roches terrestres de surface. Après que les débris de ces roches ont été enfouis dans la grotte, leur concentration diminue avec le temps, ce que l'on peut exploiter pour estimer la durée passée sous terre. Astucieux. Hein. Des mesures effectuées par les chercheurs, il ressort que les débris constituant la brèche sont enfouis depuis quelque 3,41 millions d'années. En 2015, d'autres mesures effectuées à proximité du squelette presque complet de Littlefoot, donc l'autre qui visiblement était plus récent, lui attribuaient un âge de 3,67 millions d'années. Donc on rappelle qu'on avait dit que le plus ancien fossile humain date de 2,8 millions d'années. Donc là, on était sur un âge 3,67 millions d'années, ok. Ainsi, les Australopithèques de Sterkfontein ne remontent pas au Pléistocène. Le Pléistocène, c'est quand ?
Alors ça, oui. Je n'ai jamais...
Pareil, pour retenir les dates, c'est très compliqué.
Ah, non, mais même les noms, en fait.
Bah écoute, déjà, non, mais déjà les noms c'est bien, mais c'est vrai que oui, pour être sûr, après le Pléistocène c'était quoi ? Oui. Je ne sais pas non plus. Mais les dates du Pléistocène, c'est 2,58 millions d'années à 11 700 ans. Donc c'est quand même une zone extrêmement vaste.
Ah oui, quand même, oui, effectivement.
Et en fait, donc les Australopithèques retrouvés, visiblement, ils appartiennent au Pliocène. Le Pliocène, c'était juste avant le Pléistocène, c'est-à-dire entre 5,33 et 2,58 millions d'années. Voilà. Cela est logique, puisque le registre fossile suggère que les Australopithèques se sont diversifiés, surtout pendant le Pliocène, tandis que les humains, donc le genre Homo, hein, l'ont fait surtout pendant le Pléistocène. Voilà, donc là, ils retrouvent une chronologie qui leur paraît cohérente. Pardon. La mise au point donc chronologique faite à Sterkfontein amène à réexaminer la phylogénie des nombreux Australopithèques du berceau de l'humanité sud-africain sous une nouvelle lumière. Et elle est importante pour deux raisons. D'une part, à Sterkfontein seulement, outre Littlefoot, d'autres restes datés eux aussi du Pliocène ont conduit à l'introduction de l'espèce Australopithecus Prometheus. Un Australopithèque robuste herbivore qui, selon du coup, un autre chercheur, hein, Ron Clark, de l'université du Witwatersrand en Afrique du Sud, pourrait être l'ancêtre des paranthropes, d'autres Australopithèques robustes lui ressemblant, mais qui sont eux par contre bien plus récents, puisqu'ils auraient côtoyé, donc les paranthropes, Homo habilis, Homo ergaster, eux on les connaît, hein, on en parle beaucoup plus souvent, en Afrique de l'Est, il y a 2,6 et 0,6 millions d'années. Donc là, on est vraiment quand même dans une période beaucoup plus récente. Donc, si on revient à notre Australopithecus africanus, son nouvel âge le fait apparaître comme un ancêtre putatif d'Homo, rôle revendiqué aussi par Australopithecus afarensis d'Afrique de l'Est. Donc ça éclaircit, c'est-à-dire que visiblement en fait les Australopithèques qu'ils ont retrouvés en fait sont plus anciens que ce qui avait été daté au départ. Moi c'est ce que j'ai compris de cette étude. Et d'autre part, la nouvelle datation implique que le piège à fossiles de Sterkfontein, eh bien il a capté des formes comparables à celles que l'on trouve en Afrique de l'Est à la même époque. Donc Australopithecus africanus, Australopithecus afarensis, appartiennent désormais en fait à la même ère évolutive. Et cette constatation suggère que ni le berceau de l'humanité d'Afrique de l'Est, ni celui d'Afrique du Sud, ne peuvent être seuls à l'origine d'Homo, mais plutôt que ces deux régions spectaculairement riches en fossiles anciens sont plutôt des loupes sur finalement ce passé lointain donc qu'on peut observer grâce à, à la géologie, à ces découvertes. Et très vraisemblablement, comme on l'observe ultérieurement s'agissant d'Homo, les Australopithèques ont aussi évolué au sein d'un réseau d'habitats entre lesquels coulaient des flux géniques et culturels. Cette impression est d'autant plus stimulante que l'on sait depuis 2015 que les plus anciens outils façonnés connus le furent près du lac Turkana au Kenya il y a quelque 3,3 millions d'années. Donc au Pliocène, sans doute par des mains australopithèques. Alors j'imagine qu'avant on ne pensait pas que c'était eux qui l'avaient fait. Les berceaux de l'humanité d'Afrique australe ou orientale ne sont que deux des habitats du réseau. Il reste à en découvrir d'autres, tout particulièrement sur la façade occidentale de l'Afrique, ce dont s'occupent activement justement les équipes des projets dont on a parlé au départ, les projets Human Origins in Namibia et Human Origins in Botswana.
Merci Carole, ce qui permet aussi de saluer la mémoire d'Yves Coppens qui est décédé fin juin. Et en fait, comme la saison biotine s'était arrêtée, je n'ai pas eu l'occasion d'évoquer la carrière d'Yves Coppens. Alors tu me prends au dépourvu, parce que du coup, j'ai rien.
Allons-y, jetons-nous dans l'hommage en direct.
Effectivement,
mais oui, tout à fait.
Un
grand
scientifique paléontologue, mais il avait aussi, c'est ça qu'on aime dans cette émission, cette faculté de vulgariser et de transmettre sa passion sans un côté, comment dirais-je, d'autorité, de dogmatisme, mais au contraire, il avait quelque chose de très... comment dire, côté un peu convivial et finalement très subtil de faire passer des messages et de faire passer sa passion. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, ça me, quand tu parlais de tous ces sujets, ça me fait penser à lui et ça me fait penser que depuis la rentrée, je n'avais pas eu l'occasion d'évoquer effectivement le décès de ce grand scientifique, mais aussi de ce grand vulgarisateur. En
tout à fait.
Qui est important, il était aussi, si je ne dis pas de bêtises, enfin, parmi tout ce qu'il a fait, l'un des pères fondateurs un peu du musée du Quai Branly. C'était lui aussi qui, un petit peu dans ses, comment on appelle ce musée des civilisations.
Des civilisations, oui, l'histoire des civilisations.
Voilà, c'était aussi une facette pour illustrer cette partie de vulgarisation, je vais y arriver, désolé. On écoute un peu de musique sur l'antenne de Graphite et puis on continue à feuilleter l'actualité scientifique. Moi, je vais vous parler des dauphins parce qu'on aime les dauphins, parce que c'est mignon un dauphin.
Abidjan, soleil de plomb, dans ce bois kaki, m'emmène jusqu'à l'aéroport, me vient soudain une envie de, rien ne va plus, il faut ouvrir la fenêtre. Je laisse tout s'échapper, tout en sortant la tête.
Graphite 94.9 FM.
C'était
on est là et quelle convivialité.
C'était Gollibandé avec Bacca Geyser sur l'antenne de Graphite. En fait, On est en train de discuter oui. sur les articles. Là. Rassurez-vous, on reste très professionnel.
Ça reste sur le sujet puis, qui nous concerne. Oui, voilà.
Gonimandé nous a accompagnés en fait, avec un rythme, mais c'est assez récurrent. Tu vois, on ne se rend pas compte que la chanson se termine.
C'est ça.
Ça nous a piégés. J'ai eu pourtant un œil sur le compteur, mais là, non, je suis désolé. Vous écoutez tous les samedis, dans une émission de bonne ambiance et de bonne humeur, vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. C'est sur graphite.net et le 94.9 sur la bande FM Graphite qui vous permet avec son site internet de pouvoir récupérer les podcasts de toutes les émissions de Graphite. Et dans cette émission Biotine, on parle donc de médecine, on parle de technologie, de nouvelles technologies, d'énergie, d'espace. Et aussi, on parle des animaux parce que les animaux oui. sont nos amis.
Exactement. Mais aussi parce qu'il y a des recherches très intéressantes justement qui sont menées sur les animaux.
Évidemment. Et on parle très souvent des animaux dans cette émission. Et là, on va vous parler des dauphins. Il y a plus d'une quarantaine d'espèces différentes de dauphins qui vivent dans les océans du monde. Alors déjà, je ne pensais pas qu'il y avait une quarantaine d'espèces.
Oui, qu'il y en avait autant. Ouais. Ouais, ouais.
Et il y en a l'une d'entre eux qui étonne les éthologues depuis plusieurs décennies déjà maintenant. C'est quoi un éthologue ?
Alors, c'est un scientifique qui étudie le comportement.
Et ça vient de quoi, ce nom ?
Ça vient de éthos, qui veut dire du grec, tout à fait. Éthos, qui veut dire mœurs, et logos, science.
La science des mœurs.
Exactement, la science des mœurs, tout à fait.
La science du comportement, alors.
Tout à fait.
Et l'éthologie, on en parle très souvent dans cette émission, parce que déjà, c'est toujours plaisant, évidemment, parce que c'est des sujets toujours intéressants et abordables à comprendre, parce que la diffraction des électrons pas les cristaux...
Ça, on n'aura pas résolu pendant la musique. Hein,
on ne l'a pas résolu, tu m'étonnes. Hein. Mais, et aussi parce que, en fait, en apprendre sur les animaux permet aussi peut-être d'en apprendre sur nous, les humains, parce que
bien
les
sûr.
Humains sont des animaux, il ne faut jamais l'oublier. Et donc, je reviens sur l'une de ces espèces de dauphins qui étonne les éthologues depuis plusieurs décennies déjà maintenant, c'est le grand dauphin de l'océan Indien. On l'appelle Tursiops aduncus pour les puristes. Donc voilà, tu pourras replacer dans une
dans un dîner en ville.
Tursiops aduncus, c'est un dauphin, mais pas n'importe quel dauphin. Parce qu'il semble avoir développé un réseau de coopération d'une complexité rare. C'est le réseau de coopération le plus complexe du monde même. Mis à part celui formé par les humains, bien évidemment, c'est ce que nous apprennent aujourd'hui des chercheurs de l'Université internationale de Floride aux États-Unis. Voilà quelques 40 ans maintenant, je suis désolé, je bafouille, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Voilà quelques 40 ans maintenant que ces chercheurs étudient le comportement des dauphins dans les eaux de Shark Bay en Australie. Ils avaient ainsi déjà découvert que chaque dauphin mâle noue des relations étroites avec un ou deux autres dauphins mâles et que ses pairs ou ses triplés se retrouvent ensuite dans des groupes plus importants d'une quinzaine d'individus qui eux-mêmes s'imbriquent dans des alliances encore plus larges, allant jusqu'à une cinquantaine d'individus. C'est un peu comme si chaque dauphin était membre d'un peloton, d'une compagnie et d'un régiment. C'est assez intéressant. Et bien cette fois, à partir des données recueillies dans les années 2000 sur plus de 120 dauphins mâles et qui ont été donc analysés depuis, les chercheurs de la Florida International University révèlent comment chacun des dauphins étudiés est connecté directement ou indirectement aux autres. Et montrant que ces dauphins entretiennent même des relations avec des mâles au-delà de leur système d'alliance à trois niveaux qu'on a évoqué. C'est ainsi qu'ils forment finalement le plus grand réseau social connu de toutes les espèces, en dehors des humains bien évidemment. Alors comment ? Eh bien en passant du temps ensemble, en nageant et plongeant côte à côte, en se caressant les nageoires. C'est quand même un peu pervers hein, quand même les dauphins, on l'a déjà passé.
Ça, c'est ton interprétation, anthropomorphisme.
Ou encore en communiquant par des sifflements.
Mm-hmm. Oui, ça fait... Tu limites très bien. Non, mais tout à fait.
J'étais dauphin moi, dans une vie oui. intérieure. Tout cela semble leur donner une idée très claire de ce qu'est un allié et de qui ne l'est pas. Pourquoi ? Eh bien, pour augmenter notamment leur chance de se reproduire. Parce que oui, il semblerait bien que ce soit notamment pour séduire les femelles que les mâles s'associent pour se défendre aussi des autres dauphins qui seraient tentés de conquérir les femelles convoitées par un groupe. Et donc, selon les anthropologues de l'université de Zurich, qui sont également impliqués dans ces travaux de recherche, c'est plus encore la force des liens sociaux de troisième ordre qui procure en la matière des avantages, en tout cas sur le long terme, bien sûr, car ces relations peuvent perdurer sur plusieurs décennies. Alors, Justement, même Carole, qui est plongée dans son article, n'a pas réagi. Je vous ai parlé.
Non, parce que j'écoute attentivement, évidemment.
Je vous ai parlé d'anthropologue.
Oui.
Donc, anthropologue. Donc là, on est dans un comportement humain, alors qu'au départ, je vous parle d'éthologue. Eh bien, ils avaient, en fait, ces anthropologues, pressenti que les sociétés de dauphins, comme également celles de nos cousins les primates, pourraient constituer des modèles intéressants pour comprendre l'évolution sociale et cognitive des humains. Jusqu'alors, en effet, il n'y a aucun animal qui n'avait encore été surpris de former des alliances à plusieurs niveaux pour atteindre des objectifs. Et ces travaux, d'ailleurs, pourraient bien se présenter comme l'un des soutiens les plus convaincants à ce qu'on appelle l'hypothèse du cerveau social. C'est l'idée selon laquelle entretenir des relations assez nombreuses avec ses congénères favorise le développement de cerveaux évolués qui seraient doués d'une intelligence poussée, des caractéristiques que partagent les humains et les dauphins, bien évidemment. Et donc, voilà, on se dit que ces dauphins qui entretiennent un incroyable réseau social, cela pourrait être confirmé, ou en tout cas avoir pour conséquence cette intelligence qu'on leur porte. C'est bien de se caresser les nageoires parfois.
Ben écoute, oui, je n'ai jamais testé, mais mais du coup c'est hyper intéressant. Moi j'avais déjà entendu plein de choses justement sur le réseau social en effet des dauphins, donc ça vient confirmer ces premières recherches et j'ai l'impression que du coup ils affinent les choses et ils voient par quels moyens du coup ils communiquent. Donc c'est vraiment super intéressant justement. On en apprend bien plus. Voilà, peut-être que les dauphins ont un équivalent en fait de Facebook, d'Instagram. À leur manière.
On reste avec les animaux parce que
évidemment, c'est pour ça que j'étais aussi concentrée là en parallèle sur mon article. Mais j'écoute.
On ne tient plus en fait.
C'est ça, exactement. Et en fait, du coup, moi, je vais parler donc des chimpanzés. Mais pareil sur une étude qui du coup est originale et qui en fait s'intéresse à un aspect, on va dire, plus culturel de ces animaux, puisqu'en fait, c'est un article qui a donc été mis en ligne sur Science et Avenir et qui nous dit que les chimpanzés ont un sens du rythme bien à eux. Donc voilà, on va voir de quoi il s'agit, de quoi il retourne. Parce que, alors, si on les imagine, si on a pu en voir, en tout cas dans certains parcs animaliers, hein, on les voit, ils gonflent le torse, ils lâchent un cri guttural, ils s'emparent de leur instrument et ils lancent un roulement de tambour. Eh bien, les batteurs sont des chimpanzés. La batterie de grosses racines d'arbres de la forêt. Alors là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un parc animalier, mais de chimpanzés qui vivent en Ouganda. Et les rythmes créés sont propres à chaque individu. C'est donc ce que nous révèle une étude scientifique qui est parue au mois de septembre. Et surtout, ce qui paraît étonnant, c'est que chacun aurait en fait son style. Certains pratiquent un battement très rock, d'autres plus jazzy. Et cette revue, elle est parue dans la mythique, cette étude, elle est parue dans la mythique revue britannique que tout éthologue connaît, qui s'appelle Animal Behavior. Ça, c'est le science de l'éthologue, le nature de l'éthologue. Mais donc, c'est une étude très sérieuse. Mais en plus,
on en parle souvent dans cette émission d'ailleurs, souvent
oui,
dans les articles.
Tout à fait. Mais donc, ces animaux, en plus d'avoir visiblement des différences dans leur façon de, du coup, de jouer de la musique et donc d'émettre une rythmique, eh bien, ils savent le modifier pour ne pas révéler l'endroit où ils se trouvent. Alors, on va voir ça plus en détail. Ce qui s'est passé, c'est que des chercheurs ont suivi un groupe de chimpanzés Weibira dans la forêt occidentale de Budongo, enregistrant et analysant les frappes de 7 mâles. Leur son se propage sur plus d'un kilomètre dans l'épaisse forêt et servent de moyen de communication pour les chimpanzés qui se déplacent, justement. Ça, c'est ce que nous dit l'auteur principal de l'étude, Vesta Eleuteri. Alors, c'est une doctorante et elle a expliqué pouvoir identifier qui jouait après juste quelques semaines. Donc, à écouter comme ça juste les chimpanzés, elle arrivait déjà à les reconnaître en étant comme ça sur le terrain. Donc, apparemment, c'est un chimpanzé qui s'appelle Tristan, qui joue du tambour, en fait, apparemment très, très rapidement avec beaucoup de coups séparés régulièrement. Et donc, justement, ils l'ont baptisé John Bonham en référence au célèbre batteur du groupe de rock Led Zeppelin. Son jeu est si rapide que vous pouvez à peine voir ses mains. Ça, c'est ce qu'elle nous dit. Mais d'autres chimpanzés, comme Alf ou Hila, ont un style plus syncopé, avec une technique par laquelle leurs deux pieds frappent la racine quasiment en même temps. Et donc, on va se demander du coup pourquoi ces différences, qu'est-ce que ça signifie. Alors, ces travaux, ils ont été menés par des scientifiques de l'université écossaise de St Andrews. Ils ont été supervisés donc par Catherine Obeiter. Et ça explique, justement, j'aime beaucoup la précision, que plusieurs chimpanzés aient été baptisés de noms de whisky, comme le Talisker. J'aime bien, ils le préviennent, comme ça on ne sait jamais si on parle de certains chimpanzés qui ont un nom un peu bizarre. On sait depuis longtemps que les chimpanzés pratiquent le tambour. Mais avec cette étude, les chercheurs ont compris qu'ils utilisaient leur style propre quand ils cherchent un contact avec d'autres individus, quand ils voyagent, qu'ils sont seuls ou en petits groupes. Ça, c'est ce que nous explique donc celle qui a tout supervisé, Catherine Obeiter. Les chercheurs ont aussi découvert que les chimpanzés choisissaient parfois de ne pas signer leur message afin de ne pas trahir leur identité. Et là, c'est quand même plus intéressant, on est sur un autre niveau, puisque ils ont une flexibilité remarquable d'exprimer leur identité et leur style, mais aussi de pouvoir le cacher. Donc c'est quand même assez fou d'avoir pu mettre ça en évidence, c'est-à-dire que j'imagine qu'ils ont observé en fait les mêmes individus, ils ont bien vu qu'à des moments, il n'y avait plus leur signature quelque part rythmique et qu'ils la cachaient. Donc de manière intentionnelle. Alors si beaucoup d'animaux produisent des sons qu'on peut associer à une musique, comme le chant des oiseaux, les chimpanzés, eux apprécient en fait leur musique d'une façon peut-être plus proche de la nôtre justement. C'est ce que nous disent les chercheurs. Ils croient en fait que justement comme nous, les chimpanzés ont potentiellement un sens du rythme, un sens de la musique, quelque chose qui les touche à un niveau émotionnel, comme l'émotion que provoque chez nous un superbe solo de batterie ou un autre son musical important. Les études sur les chimpanzés se concentrent généralement, et c'est vrai hein, quand on regarde un petit peu ce qui se fait dans la littérature, sur leurs outils ou leur alimentation. Et là, ce qui est intéressant, c'est que justement, avec cette étude, quand on pense en fait au départ à la culture humaine, on ne pense pas aux outils utilisés, mais on pense à comment est-ce qu'on s'habille, quelle musique on écoute. Et là, en fait, les chercheurs, c'est un petit peu ce qu'ils ont cherché à regarder justement chez les chimpanzés. Et ils envisagent d'étudier comment d'autres communautés de chimpanzés produisent des sons. Il s'intéresse actuellement à une espèce en Guinée qui vit dans une savane quasiment dénuée d'arbres utilisables comme tambour. Donc là, c'est intéressant, autre environnement, comment est-ce que peut-être eux, ils font de la musique. Et ils ont déjà des indices, en fait, c'est ce que nous dit toujours Catherine Obeiter. Nous avons des indices qu'ils pourraient lancer des cailloux contre d'autres cailloux pour produire des sons. Littéralement, de la musique rock. Bon, moi, je trouve qu'il y a une... On sent qu'elle aime le rock. Hein. C'était assez connoté dans l'article. Mais du coup, c'est super intéressant de voir qu'on commence à étudier certaines espèces animales au travers aussi peut-être d'un niveau plus culturel de leur pratique.
Ouais. Effectivement, oui, c'est assez rare en fait.
Oui, pour l'instant, c'est des études, à mon avis, qui sont relativement pionnières dans le domaine.
Ok, c'est intéressant, très bien. Ben, on va suivre ça, évidemment.
Donc, si on se balade dans les forêts, en Ouganda ou autres, en tout cas des forêts où il y a encore évidemment des chimpanzés qui vivent du coup à l'état naturel, tendez l'oreille, vous entendrez peut-être du coup de la musique.
Tu es tellement formidable, Carole, que tu mériterais presque une rivière de diamants. Je vous donne la recette pour pouvoir fabriquer vous-même vos diamants et donc une rivière de diamants. Ça sera juste après Liam Bailey sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
You love yourself. You're so excited. You got me. I got you. Hey.
Graphite, également à l'écoute sur graphite.net.
C'était Liam Bailey avec White Light sur l'antenne de Graphite. Comme dans les grandes stations de radio, on est là en train de se faire des gestes comme ça que personne ne regarde, parce que quand on est à la radio, justement pour pouvoir faire les lancements ou autres. Graphite sur le 94.9 ou graphite.net vous permet d'écouter Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. C'est l'actualité scientifique et donc... on a cette technique de ce qu'on appelle le teasing, c'est-à-dire essayer de susciter la curiosité que pour que les auditeurs puissent rester à l'écoute de notre radio. Je vais vous parler de cette fabrique de rivières de diamants. En fait, ce n'est pas moi qui ai l'idée, ce sont les scientifiques. Et des fois, les scientifiques, ils ont un petit peu des drôles d'idées. Par exemple, il y en a, ça leur prend comme ça, ils ont envie de bombarder un film en polyphtalate d'éthylène et avec un puissant laser. Alors, le ptéréphtalate d'éthylène, on le connaît sous forme d'acronyme, le PET. Et ça, ça dit quelque
chose. Ah oui, bien sûr. Oui, ça dit quelque chose.
C'est le plastique de nos bouteilles, par exemple. C'est ce plastique-là. Et donc, ils se sont dit, bah, tiens, si on barre en barre... On...
si on quoi
on bombardait avec un laser une bouteille de plastique. Ou en tout cas, plus précisément, si on bombardait avec un laser ce fameux polytéréphtalate d'éthylène. Et là, je suis très fier de l'avoir dit sans bafouiller, le PET. Eh bien, c'est précisément une idée qu'a eue une équipe internationale dirigée par des chercheurs allemands d'un centre dont le nom est tellement compliqué que je ne vais pas me lancer dedans. On va dire que c'est des scientifiques allemands qui ont eu cette idée et qu'elle n'est pas venue totalement par hasard, cette idée. En fait, les physiciens espéraient pouvoir confirmer la théorie selon laquelle il pleut des diamants sur Neptune et Uranus. Alors déjà, moi, bon, je ne suis jamais allé sur Neptune et Uranus, je n'ai jamais entendu parler qu'il pleuvait des diamants sur Neptune et Uranus. Mon Dieu, si ça se savait, je pense qu'on serait plusieurs à essayer d'y aller. Et en tout cas, essayer de mieux comprendre la raison de cette pluie de diamants. Il y a plusieurs explications. D'abord, concernant le lien entre ces deux planètes géantes et puis cette expérience de bombarder du laser avec nos bouteilles en plastique, alors les chercheurs assurent en effet que la composition en carbone, en hydrogène et en oxygène, tout ça, ça va constituer ce plastique de ces bouteilles. Et cette composition, elle est particulièrement proche de celle des atmosphères de Neptune et Uranus. Alors ok, on va essayer de... faut prendre le temps. Il y a des moments où il faut prendre le temps d'expliquer. Ça tombe bien, on a du temps justement pour pouvoir l'expliquer et de bien visualiser les choses. Vous avez dans les bouteilles en plastique du carbone, l'oxygène, de l'hydrogène. Vous avez dans l'atmosphère de Neptune et d'Uranus les mêmes composants également. Et faut que je retrouve ma phrase. J'en étais, voilà. Et donc tout ça, si on peut le bombarder avec un faisceau laser, ça permet de créer brièvement les conditions extrêmes de température et de pression qui se passent sur Neptune et Uranus. Et donc on essaye de faire à petite échelle, en fait, la réaction qui a lieu dans l'atmosphère de ces deux planètes, avec cette bouteille de plastique et avec ce laser. Les chercheurs avaient déjà mené ce type d'expérience, mais sur des films d'hydrocarbures, donc hydrocarbures, hydrogène et carbone seulement. Et déjà, on avait vu apparaître ce qu'on appelle des nanodiamants. Alors voilà, c'est là aussi le suffixe à son importance. Nanodiamants, c'est-à-dire des diamants de toute petite dimension. Bien évidemment, ne vous attendez pas à un magnifique solitaire, bien sûr. Alors... ils ont pu observer que la présence d'oxygène, parce que là on a rajouté de l'oxygène dans la composition, ça accélère la séparation du carbone et de l'hydrogène, si bien que ça encourage encore un peu plus la formation de diamants. Et au-delà de compléter les connaissances que nous avons sur ce qui se passe sur les planètes géantes, donc Uranus et Neptune, cette découverte pourrait ouvrir des perspectives intéressantes dans la production justement de ces nanodiamants. Parce que ça, c'est intéressant. Ils entrent notamment dans la composition d'abrasifs, d'agents de polissage images et demain, ils devraient être utilisés comme des capteurs quantiques ultra-sensibles, comme des agents de contraste médicaux, comme des accélérateurs de réactions physiques et chimiques. Donc, c'est quand même pas anodin, ça peut être très utile. Et à l'aide de flash laser à rayons X, il deviendrait possible de produire en fait facilement, entre guillemets, des nanodiamants, non seulement de manière un peu plus propre qu'avec des explosifs, comme c'est le cas actuellement, mais aussi dans des tailles contrôlées et même au besoin dopées par d'autres atomes en utilisant en fait des bouteilles en plastique. Et Dieu sait qu'on en a des bouteilles en plastique à récupérer et à utiliser. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on refait sur une échelle humaine, on va dire, une réaction qui a lieu à une échelle d'une atmosphère d'une grosse planète. Et du coup, on pourrait fabriquer du diamant. Faut pas oublier que du diamant, ce n'est que du carbone.
C'est vrai au départ, oui.
On a toujours cette image de « Ah, c'est magnifique !» Oui, c'est magnifique, mais ça reste du carbone. C'est-à-dire que graphite, c'est aussi, quelque part, du diamant. Non, il ne faut pas oublier ça. C'est une composition de carbone. Alors, évidemment, c'est une composition carbone très spécifique, en forme de cristal, tout ça. Enfin, on a appris ça dans les cours de chimie à l'époque. Mais voilà, on reste quand même sur des éléments qui sont assez rudimentaires à la base. Et donc, du coup, avec cette réaction que l'on met en place et ce laser et ces bouteilles en plastique, on pourrait donc créer des diamants. Et je trouve que ce titre très malin, des scientifiques transforment du plastique en diamant, ne peut qu'attirer l'œil, ce qui a été mon cas.
Évidemment, on a envie de regarder ce que nous dit l'article.
Évidemment, et du coup, j'ai à côté de moi une bouteille, parce qu'il fait tellement, on a tellement soif quand on parle dans ce studio. J'ai une bouteille en plastique, je ne sais même pas s'il y a du PET dessus, mais si, c'est marqué en gros PET.
Bah oui.
Donnez-moi un laser, je te fais, ma chère Carole, une rivière de diamants, bien évidemment.
Bah écoute, en attendant, du coup, je pense qu'on va terminer l'émission donc, en évoquant comme ça quelques nouvelles qui font l'actualité toujours scientifique et qui sont, j'allais dire, diverses et variées. Commençons peut-être par ce que je pense la plupart des gens ont peut-être déjà entendu, la plupart de nos auditeurs, c'est que la population mondiale, elle atteindra 8 milliards d'humains d'ici au 15 novembre. Ça, c'est selon un rapport de l'ONU. Et donc, 8 milliards déjà, j'allais dire psychologiquement, ça fait quelque chose, mais surtout quand on sait qu'en fait, on était 7 milliards en 2010 et qu'on est passé comme ça donc à 1 milliard de plus en 12 ans.
Oui, parce que j'étais en train de réfléchir. Moi, ma jeunesse, c'est les années 80. On parlait de quoi ? De 5 milliards. Et la grande révolution, c'était on avait basculé à 6 milliards, je crois, dans les années 90. Je dis ça de mémoire, je ne suis pas totalement certain des dates. Mais c'était un peu cette idée-là. Et on disait à l'époque, oh, mon Dieu, mais 6 milliards, mais comment on va faire ? On va être énorme. Et là, tu nous dis 8 milliards.
8 milliards.
Et en fait, on s'en fout. Enfin, on s'en fout.
C'est et là, ça plus, passe tout seul. 8 milliards. Voilà, c'est même plus un sujet.
Alors que c'est... J'allais dire dramatique. C'est pas, je retire ce mot-là, je ne veux pas dire que c'est dramatique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une prise de conscience des impacts de 8 milliards d'êtres humains sur cette Terre. On n'arrête pas de parler des règlements climatiques, on n'arrête pas de parler de plein de choses qui sont difficilement contrôlables et on te rajoute des humains. Je ne veux pas dire que c'est moins d'humains. Je dis juste qu'il y a une prise de conscience qui n'existe pas. Et en fait, tu as commencé ta phrase en disant « je pense que tout le monde le sait déjà ». Je pense qu'en fait, que personne ne le sait.
Que oui, l'information, là, elle passe relativement inaperçue par rapport au...
Je ne l'ai pas entendu, donc ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas...
Oui, mais pour moi, c'est au moment des 7 milliards où j'ai l'impression qu'on en parlait tout le temps. Et puis où après, on nous disait que ce n'était plus un sujet, parce que de toute façon, en fait, c'est juste que les ressources, évidemment, étaient extrêmement mal partagées, mais qu'on avait, notamment, je pense à l'alimentation, parce que ça, je l'avais pas mal entendu, qu'on avait largement de quoi nourrir 7 milliards, mais simplement nos façons de produire et la façon après évidemment de répartir malheureusement ces ressources, elle est tellement inégale que c'est vrai que ça pose quand même question de se dire maintenant on est à 8 milliards, mais dans quelles conditions aussi vit une grande partie de l'humanité ? C'est toujours la question. Indépendamment de l'impact évidemment qu'elle aura sur la planète et donc sur notre futur à tous, ça c'est sûr.
Il y a un impact sur la planète et effectivement tu as entièrement raison de parler, ça va être de l'agriculture encore plus intensive en fait. Avec les conséquences que cela peut avoir sur la santé, sur l'utilisation des pesticides. Enfin, on a l'impression que c'est un cercle vicieux. Je ne sais pas comment expliquer, mais quand je dis
je saisis.
Je donne une mauvaise image, donc je ne veux vraiment pas dire on est trop nombreux. C'est pas mon raisonnement, parce que qui suis-je pour dire moi j'ai le droit de vivre et pas un autre. C'est pas ça mon raisonnement. Je trouve qu'en fait, il n'y a pas une prise de conscience collective de ce que cela engendre. Et en fait, on est toujours, on réagit a posteriori. Toujours.
Bah, toujours, bien sûr.
Bah oui, mais non.
Bah alors, oui, mais...
mais peut-être que, comme tu parles du 15 novembre, c'est peut-être que le 15 novembre, grand suspense, oui. Ce sera peut-être, l'information qui sera communiquée. Bah,
peut-être qu'ils attendent en effet que ça soit le cas et que le chiffre soit atteint pour en parler.
C'est ce qu'on peut se dire, oui, effectivement.
Ouais. Mais je pense qu'on en aura l'occasion justement d'en reparler aussi dans l'émission, puisque bah, ça aura potentiellement des impacts. Et puis bah, on verra peut-être aussi des impacts au niveau justement de la recherche. Et donc comme ça, ça me fait une transition parfaite pour parler, parce que tu me parles d'agriculture plus intensive, de savoir comment est-ce qu'on fera pour du coup nourrir autant de monde. Et bien là, c'est l'histoire d'un gène en fait qui augmente la production de riz. Donc c'est des plantes transgéniques, bien sûr, qui permettraient de produire jusqu'à 40% de riz en plus. Et ça, c'est ce qu'ont réussi à obtenir des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences agricoles qui viennent de publier leurs résultats dans la revue Science. En amplifiant l'expression d'un gène clé pour la photosynthèse et l'absorption d'azote dans le sol, les plants, c'est-à-dire le plant à chaque fois, ont réussi à produire en fait des grains qui sont plus nombreux et plus gros dans des conditions de culture variées. Et une telle augmentation n'avait jamais été obtenue chez une plante génétiquement modifiée. Oui, parce que du coup, on le sait, il y a quand même pas mal d'études sur les plantes transgéniques pour qu'elles soient plus résistantes du coup à leurs parasites, etc. Et donc là, en fait, voilà, on a des plants qui peuvent produire des grains donc plus nombreux, plus gros. Et ce meilleur rendement, eh bien, il peut permettre à terme d'utiliser moins de terre et d'eau, mais aussi d'engrais azotés, ces derniers étant une source importante de protoxyde d'azote, un puissant gaz à effet de serre. Oui, parce qu'évidemment, tout est lié. Donc l'agriculture produit du coup des gaz à effet de serre et ainsi de suite. Enfin voilà. Donc du coup, il y a quand même des recherches prometteuses qui pourraient permettre d'augmenter la production de riz.
Et ça c'est pareil, c'est encore un autre sujet. Tout ce que tu évoques est vraiment intéressant dans le sens où ça va dans le bon sens. Ça répond en fait à la première information. Mais on est sur des organismes génétiquement modifiés.
Déjà, oui.
Et là encore, ce n'est pas à moi de juger. Je dis juste, on n'a aucun débat sur ça.
On en avait eu beaucoup. Et puis j'ai l'impression que pareil, on est passé à autre chose.
Ici, notamment à l'Université de technologie de Compiègne, qui, il y a une quinzaine d'années, c'était un vrai sujet de débat. Et l'UTC était porteur de messages de vulgarisation pour que les gens... En fait, ce n'est pas aux scientifiques de dire il faut faire, il ne faut pas faire. C'est aux scientifiques de dire voilà ce que c'est. Et c'est aux citoyens de dire faut faire ou pas faire. Dans le cas précis, en plus, tu évoques clairement que c'est la Chine. On peut se dire que finalement, est-ce que il y a eu un débat? Je pense que non, j'en sais rien, mais je ne crois pas. Et on nous met devant le fait accompli. Et c'est très pervers parce que comment est tournée l'information? Tu n'as que des avantages parce que tu nous dis on va produire plus en utilisant moins de pesticides et moins d'eau et c'est bon pour la planète. Oui, c'est bon pour la planète. Effectivement, ça reste qu'un organisme génétiquement modifié qu'on va mettre sur le marché sans nous avoir demandé notre avis.
Et quelles seront les conséquences aussi, puisque...
Je ne sais pas, mais voilà. Non, peut-être pas. Enfin, je n'en sais rien. Je dis juste qu'il n'y a pas de débat. C'est ça qui...
Oui, c'est vrai.
Et vu l'information, comment elle a été tournée, évidemment, elle est tournée du point de vue positif. Parce que, dit comme ça, tu es d'accord.
Bien sûr.
Tu peux être que d'accord. Tu peux dire, mais oui, il y a des gens qui meurent de faim, on peut produire plus de riz. Il faut faire ça. Je pense qu'on pourrait aussi... tourner l'information, et ça c'est un vrai exercice aussi, c'est pas toujours facile à faire, dans un sens inverse, en disant là on est dans un organisme génétiquement modifié, voilà ce que c'est qu'un organisme génétiquement modifié, et du coup, voilà, qu'est-ce que vous en pensez?
Et là c'est vrai que c'est tourné de manière à déjà donner l'information, en effet, de manière juste affirmative, et je vois ce que tu veux dire, oui.
Mais ça, elle est affirmative, mais elle est juste, hein. Je ne dis pas que ce qui est dit est faux. L'information, elle est totalement juste. Il n'y a pas de débat.
Oui, non, mais tout à fait. Oui.
J'aime bien faire mon vieux
coup. Oui, non, mais il le faut. Et puis, en plus, en fin d'émission, c'est tellement agréable.
C'est la fin de l'émission. Tu veux garder une petite brève?
Oui, alors, bah, du coup, je choisis celle sur les animaux. Ah bah, forcément, en plus, vu l'émission qu'on vient de faire, ça nous explique que, justement, le bison est de retour en Angleterre. Alors, savait-on déjà qu'il avait disparu? Mais oui, 3 bisons femelles ont été réintroduits dans une forêt du sud-est de l'Angleterre. Attention, si vous vous baladez par là. Hein. Mais c'est la première fois en fait depuis des millénaires que le bison européen, plus gros mammifère terrestre et cousin le plus proche du bison des steppes qui arpentait autrefois la Grande-Bretagne, eh bien il va de nouveau vivre en liberté. Un mâle provenant d'Allemagne devrait les rejoindre dans les prochains mois. Donc, et on peut imaginer qu'on aura peut-être après des bébés bisons et ainsi de suite qui continueront de se promener donc dans les forêts européennes.
J'espère qu'ils ont prévu les panneaux de signalisation tout le temps avec attention aussi. Traversée de bisons parce que ça, il n'existe pas.
En effet.
Donc c'est dans le sud de l'Angleterre.
Dans le sud de l'Angleterre pour l'instant, le sud-est.
Dans le sud-est de l'Angleterre, tout ça c'est quand même grâce à Charles III bien évidemment.
Et on le remercie.
C'est un privé joke entre Carole et moi. Carole que je remercie pour l'animation de cette émission aujourd'hui. Bien, merci. Merci à vous de votre fidélité et de votre attention pendant cette petite heure de biotine. On se retrouve samedi prochain. Carole, tu es là samedi prochain?
Bien sûr. Génial. Comment pourrais-je manquer la prochaine émission?
Ce mois d'octobre est totalement génial. On va parler encore plein de sujets, notamment une révolution pour les batteries et tout ça grâce au crabe. Tiens, on parlera de ça samedi prochain sur l'antenne de Graphite. D'ici là, bien sûr, vous pouvez récupérer les podcasts de l'émission sur graphite.net, nous réécouter pour la rediffusion le mardi à 10h et bien sûr suivre toutes les émissions de Graphite à partir de maintenant. Merci de votre attention. Merci Carole.
À bientôt.
À samedi, au revoir.
Au revoir.